Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mardi 26 octobre et il y a de l'électricité dans l'air ce matin. Du nucléaire, je vous en mets un peu, beaucoup, pas du tout. C'est la question centrale de la transition énergétique qui est l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Et bien à cette question, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a apporté hier 6 réponses différentes. 6 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça va du tout renouvelable au 50% de nucléaire, ce qui nécessiterait la construction de 14 EPR ainsi que de petits réacteurs.
Et le 100% énergie renouvelable, c'est possible ?
Techniquement oui, financièrement ça reste à voir, parce que c'est l'une des options les plus coûteuses selon RTE, pour qui le nucléaire reste l'assurance d'une transition énergétique à moindre coût. Et bien ce n'est pas l'avis de l'association Negawatt qui publie aujourd'hui sa propre étude centrée sur la réduction de la consommation. Son porte-parole sera en direct avec nous à 6h10. À la une également, Omblin, cet événement dans le monde de l'art contemporain.
Oui, pour la première fois, dans une vente publique, le chef-d'œuvre de Magritte, l'art de la conversation, sera proposé aux enchères par Sotheby's après la fermeture de la FIAC, la foire internationale d'art contemporain de Paris. La toile du maître du surréalisme fait partie des 35 lots d'une vente qui regroupe des œuvres d'art impressionniste, moderne et contemporain estimées entre 9 et 12 millions d'euros. L'art de la conversation a été réalisé par Magritte en 1950 et alors je ne sais pas si vous connaissez, mais il représente deux visions nocturnes qui se rencontrent et forment le mot amour. Voilà, il s'agit d'un exemple parfait des tableaux mots, l'un des thèmes de prédilection de l'artiste belge. Nous serons à 5h40 avec Thomas Bompard, expert en art moderne chez Sotheby's.
Sotheby's, c'est comme ça qu'on dit. Le mardi matin, c'est littérature dans votre prescription culture. Et Nicolas Caro a choisi le nouveau roman de Valérie Tong-Kyung, Un tesson d'éternité, le portrait d'une femme dont le fils a été arrêté et emprisonné. Et puis, qu'est-ce qu'on écoute ce matin, Omblin ?
L'une des plus belles voix du XXe siècle.
Alors, ça revient en studio, là.
Il faut que je reprenne, c'est ça ?
Oui, oui, tout de suite.
Houston,
oui.
Au commencement, avant que la candeur de son sourire ne disparaisse sous le vernis empoisonné de la gloire, la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Bon début de matinée. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour ma chère Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Bonjour.
Est-ce que la météo du jour sera à l'image de Whitney Houston, c'est-à-dire enjouée, dansante,
alors, pas autant,
solaire ?
Mais on aura un petit peu moins de pluie qu'hier déjà. Ça sera un petit peu moins tristouné, moins humide. On a encore ce matin sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, jusqu'au Lyonnais, quelques résidus de la perturbation d'hier avec des petites averses. Sur les côtes de la Manche, on a aussi des averses, hein, le temps est humide. Mais surtout, ce matin, ce qui est important à retenir, c'est le ciel. Le ciel qui est couvert avec de très nombreux brouillards. Toutes les régions sont concernées, du nord jusqu'à l'Occitanie. On a des brouillards partout, très épais. Soyez vraiment très prudents, il n'y a qu'au bord de la Méditerranée que le soleil brille. Cet après-midi, les grisailles sont tenaces à l'est. Hein, le ciel a vraiment du mal à se dégager. Et sur la moitié est, les nuages bas vont se dissiper pour quelques petites éclaircies. Le Mistral et la Tramontane se lèvent aujourd'hui jusqu'à 70 km/h. Alors les températures, c'est beaucoup plus doux ce matin avec 5 à 14 degrés. Cet après-midi, c'est comme hier, 12 à 16 dans le nord-est, jusqu'à 18 à l'est et 24 au bord de la Méditerranée.
Tout de même, merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil. Place à l'info de ce mardi 26 octobre. Il est 5h sur Europe 1. Très cher, le coût des complémentaires santé explose en France. Près de 2900 euros par an en moyenne pour un couple senior. Alors certains Français y renoncent. Résultat d'une étude meilleurtaux.com qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin avec Le Parisien aujourd'hui en France. Autre information Europe 1, Éric Zemmour lancera son parti à la fin du mois prochain. On vous avait déjà dévoilé le nom qui tient la corde, Vox Populi. C'est aux alentours du 11 novembre que le polémiste devrait sauter le pas et annoncer sa candidature à la présidentielle. Et puis Haro sur Airbnb à Saint-Malo. Mairie et riverains veulent limiter les locations de courte durée. Plus de 10% des appartements ou maisons sont vampirisés par la plateforme américaine. Reportage à suivre.
Europe Matin. Et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mardi vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La santé, oui, mais à quel prix ? Les tarifs des complémentaires santé s'envolent. Cette année encore, ils atteignent des niveaux historiques. La question de l'accès aux soins, Élise Dangean, se pose plus que jamais, notamment avec cette étude annuelle de meilleurtaux.com que vous nous révélez en exclusivité sur Europe 1.
2883 euros, 10 euros de plus que l'an dernier. C'est le montant annuel moyen que doit débourser aujourd'hui un couple de seniors en France pour une mutuelle avec des garanties renforcées. On dépasse même les 3000 euros dans 16 départements, dont la Seine-et-Marne qui a passé la barre symbolique cette année. Des montants jamais atteints auparavant et des conséquences très concrètes, explique Fabien Sociaux, expert assurance du groupe MeilleurTaux.com.
C'est un budget qui est de plus en plus conséquent et qui forcément vient grignoter sur d'autres dépenses. De ce fait, il y a beaucoup de foyers qui peuvent se poser la question de revoir à la baisse leurs garanties, voire de ne plus s'assurer du tout. C'est des comportements qu'on voit déjà se produire sur un petit peu toutes les populations aujourd'hui, mais qui risquent de s'accentuer pour les seniors avec des tarifs qui sont historiquement hauts.
À mesure que les prix augmentent, les écarts se creusent entre départements. Près de 500 euros, par exemple, entre le Val-de-Marne et le Morbihan. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a une nouvelle fois appelé les complémentaires santé à ne pas augmenter davantage leurs tarifs.
Élise Dangean, et c'est en Alsace que les mutuelles coûtent le moins cher, selon cette étude MeilleurTaux.com, dévoilée par Europe 1 et Le Parisien aujourd'hui. En France.
Le coût de la santé qui augmente donc, tout comme un symbole bien français, le pain.
Oui, vous verrez sûrement votre pain bûcheron ou aux graines prendre 5 à 10 centimes dans votre boulangerie préférée d'ici quelques jours. Au plus grand regret des artisans bien obligés d'augmenter les prix avec la hausse des tarifs de l'électricité, des cours du blé, mais aussi des matières premières. Exemple dans une boulangerie du 7e arrondissement de Paris qui n'a pas le choix. Reportage d'Océane Théard.
Et voilà, ça c'est de la tradition, le pain croustillant.
La baguette dorée à 1,25€, c'est bien un des seuls produits qui ne va pas augmenter dans la boulangerie de Sébastien Breteau. Le pain aux céréales, le pain d'épeautre, le pain complet, tous vont coûter environ 10 centimes plus cher. Pas le choix pour ce boulanger qui voit le coût de ses farines augmenter.
Les sacs de farine qui sont là, ils ont augmenté à peu près de 10€ le quintal. Donc on est passé entre 50 et 60 à 60-70€ le quintal. C'est 4 sacs. 4 sacs de 25, ah, c'est une belle augmentation. Donc on est obligé de le répercuter sur les clients, malheureusement.
Une autre facture qui flambe, celle de l'électricité.
Alors là, c'est un four qui a 8 ouvertures. C'est un monstre en termes électriques.
800 à 1000 euros de plus à prévoir chaque trimestre, d'après les estimations de Claire, co-gérante de la boulangerie.
1000 euros par mois d'électricité, ça revient à dire qu'on va en avoir pour plus de 12 000 euros à l'année d'électricité. C'est énorme. Quand on a 19 personnes qui attendent leur salaire à la fin du mois, on est obligé, malheureusement, d'imposer une augmentation des prix pour s'en sortir.
Claire et Sébastien n'espèrent qu'une chose, que cette hausse ne fera pas fuir leur clientèle alors que leur boulangerie se remet à peine de la pandémie.
Le reportage à Paris d'Océane Théard.
Et le pain n'est pas le seul aliment qui devrait augmenter dans les prochaines semaines. Selon les dernières prévisions du cabinet d'études Nielsen IQ, la hausse pourrait atteindre 15% pour le café, 12% pour les pâtes.
Il n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle, mais il s'y prépare activement.
Il, c'est Éric Zemmour, dont la campagne continue de se structurer. Le polémiste s'apprête d'ailleurs à lancer son propre parti, Vox Populi, entendez la voix du peuple. Et Jacques Serret, vous nous révélez ce matin sur Europe 1 que ce sera à la fin du mois de novembre.
Oui, l'invitation n'a pas encore été envoyée, mais déjà plusieurs responsables départementaux et régionaux de l'association des Amis d'Éric Zemmour ont été prévenus. Selon nos informations, le polémiste les convie à Paris à la fin du mois de novembre. Éric Zemmour souhaite réunir ses responsables locaux pour un rendez-vous capital, la création de son parti politique. Un parti dont le nom fait l'objet de multiples rumeurs, mais en coulisses, un seul tient véritablement la corde, celui de Vox Populi, comme nous vous le révélions il y a 2 semaines sur Europe 1. C'est ce nom qui devrait officiellement être acté d'ici 4 à 5 semaines. D'ici là, avant la mi-novembre, Éric Zemmour aura annoncé sa candidature. Selon les dernières indiscrétions, il devrait faire part de sa décision de se lancer dans la course à la présidentielle aux alentours du 11 novembre.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Tuée parce que juive, ouverture aujourd'hui du procès du meurtre de Mireille Knoll.
3 ans et demi après l'histoire de l'octogénaire tuée de 11 coups de couteau, le corps à moitié carbonisé dans l'incendie de son appartement à Paris avait ému la France entière. La cour d'assises de Paris juge jusqu'à la mi-novembre ces 2 meurtriers présumés, Gladys Laffitte, et le caractère antisémite a été retenu pour le procès.
Ah oui, deux hommes de 25 et 31 ans. Ce dernier est le fils d'une voisine de Myriel Knoll qu'elle connaissait depuis ses 8 ans, Yacine Mihoub. Selon son co-accusé, il reprochait aux Juifs d'être blindés, je cite. Au départ, ils auraient voulu voler l'octogénaire. L'enquête n'a pas permis de savoir lequel des deux avait tué la victime. Chacun se renvoie la responsabilité des coups de couteau et des départs de feu dans l'appartement. Mais pour l'avocat des fils de Myriel Knoll, Gilles-William Golnadel, Yacine Mihoub dominait son complice.
Il est décrit comme un menteur patenté, il a un casier judiciaire long comme un jour sans pain, c'est un antisémite patenté. Sur les murs de sa cellule, il écrit « Vive les frères Kouachi et Koulibaly ». Les deux se sont parfaitement bien trouvés, mais je pense que dans la hiérarchie de l'horreur, l'un dépasse l'autre.
Pour les juges d'instruction, les deux hommes ont agi en coaction. Et une troisième personne est aussi jugée, la mère de Yacine Mihoub. Elle est accusée d'avoir nettoyé l'arme du crime et jeté notamment le téléphone portable de Myriel Knoll juste après les faits.
Merci Gladys Laffitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Soirée d'une rare violence hier à Lyon, à la Duchère. Le parquet ouvre une enquête pour tentative d'homicide. Des individus ont tiré délibérément sur des policiers de la BAC qui surveillaient un point de deal. Aucun blessé n'est à déplorer et des recherches sont en cours pour identifier le ou les auteurs des tirs.
Alors que nous sommes en pleine vacances de la Toussaint et que les séjours de courte durée séduisent de plus en plus de Français, la guerre avec Airbnb est déclarée à Saint-Malo.
Riverains et mairies font front commun. Les habitants ont créé le collectif J'y vis, j'y reste. Et la municipalité a pris des mesures et pour cause, la ville de Saint-Malo détient un record, celui du nombre de logements en location saisonnière par rapport au nombre d'habitants, 10% en moyenne. Reportage sur place, Sandrine Brioul.
Sur la rue principale pavée d'intramuros, Jeanne-Françoise est lassée. Agacée du bruit de la valise à roulettes, la moitié des appartements de son immeuble est passée en location de courte durée.
Ça a commencé dès vendredi. Oui. Ah, ça ne s'arrête pas. Là, le ménage vient d'être fait, ils sont partis ce matin, donc il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. On est fin octobre. J'ai dû avoir 20 jours de tranquillité depuis la mi-décembre l'année dernière. Par moment, je me dis, mais est-ce que j'habite ici quoi? Je ne sais plus.
Il fallait que ça cesse, scande celui qui a lancé un collectif de riverains, Franck Roland, fier qu'ici des copropriétaires puissent désormais interdire d'entrer des locataires Airbnb.
Nous, on veut une ville qui vive à l'année, qui de temps en temps ont quelques pointes avec des nouveaux apports de population qui appellent les touristes. Voilà. Mais le paradoxe, c'est que Saint-Malo ne cesse de construire et la population baisse. Ça ne peut qu'alerter. C'est pour ça qu'il faut à un moment donné des mesures un petit peu volontaristes. Et d'ailleurs, c'est réjouissant que le règlement municipal, par l'imposition de quotas, ne permet plus d'acheter plusieurs appartements. Donc c'est quand même des choses qui basculent.
Déjà, des villes littorales ont contacté le collectif pour s'inspirer de ces mesures. Saint-Malo, Sandrine Prioul, Europe.
Et les règles adoptées par la mairie de Saint-Malo sont attaquées en justice par des particuliers bailleurs qui estiment que la location saisonnière est le seul moyen pour eux de pouvoir conserver leur maison de famille.
On traverse la Manche, direction Londres et le mythique club d'Arsenal qui recrute des futures stars du football de plus en plus jeunes.
5 ans, ce n'est même pas l'âge des enfants en classe de CP, c'est pourtant celui d'un tout jeune footballeur, le Little Messi comme on l'appelle, qui vient d'intégrer le centre de formation du club londonien. Un événement inédit qui pousse la chaîne britannique BBC, Cédric Chasseur a consacré tout un documentaire à ce mini prodige.
Oui, son nom Zayn Ali Salman dit Little Messi, un petit garçon aux longs cheveux bouclés dont les performances balle au pied en feraient pâlir plus d'un. À seulement 5 ans, il approche les 20 000 abonnés sur Instagram, est ambassadeur d'une marque pour enfants et joue pour l'académie d'Arsenal. En Angleterre, c'est légal, ce que confirme maître Thierry Grand-Turcot, avocat spécialiste dans le droit du sport, qui soulève tout de même une question plus philosophique.
On peut comprendre qu'un jeune enfant puisse être vu comme un jeune talent et donc puisse être vu comme une valorisation financière pour un club, mais pour autant, de donner une valeur marchande à un enfant de 4-5 ans, voire même plus vieux, et de convaincre avec des espèces sonnantes et trébuchantes les parents qu'il faut qu'ils signent dans son club, oui, ça pose clairement des problèmes moraux et éthiques.
En France, obtenir une licence avant 5 ans est impossible. Payer un joueur pour évoluer dans son centre de formation, encore moins. Mais comme le précise maître Grand-Turcot, pour convaincre des adolescents d'une quinzaine d'années, certains clubs n'hésitent plus à proposer des indemnités aux familles.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h11 sur Europe 1, l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly. Et mon pari gagnant sera le 707 Ultimatum. Il reste sur 3 deuxièmes places dans cette catégorie des handicaps où par 3 fois, après avoir été monté dans le groupe de tête, sa tactique préférée, il ne s'est avoué battu que dans les derniers mètres aux abords du poteau d'arrivée. Sérieux et courageux, sa régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une première victoire qu'il n'a cependant encore jamais connue en 28 courses. Notez bien, pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 7, Ultimatum.
Merci Thierry Léger, vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Bon réveil avec Europe 1. On se retrouve dans moins d'une minute pour le pressing.
On a feuilleté les journaux du matin et on a retenu 3 histoires. Des animaux qui prennent la clé des champs, des millions de billets de banque qui manquent à l'appel et un avion sans aile. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12, bon réveil avec un café et un pressing de rigueur. Votre revue de presse sur Europe 1, on est rejoint par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. Alors pour le café, on reviendra hein, parce que la machine à café est cassée à
Europe 1.
Encore ce matin ? Oui, malheureusement. Bon. On commence tout de même avec les unes de vos journaux qui, eux, ne sont pas cassées. Fuel, l'autre flambée des prix, titre aujourd'hui en France. Le litre vient de passer la barre symbolique de 1 euro, soit 53% d'augmentation en un an. Résultat, les propriétaires de chaudières au mazout sont en colère. Et ce ne sont pas les seuls qui s'inquiètent de l'explosion des prix de l'énergie. Une note salée pour les entreprises, titre La Voix du Nord. Métallurgistes, transporteurs ou encore fabricants de papier, tous voient leurs factures s'envoler. Et puis, déjà en campagne, Macron s'expose sur tous les fronts. C'est le titre à la une du Figaro. Alors que le chef de l'État multiplie les déplacements et les aides financières en tout genre, Emmanuel Macron ou l'art de faire campagne sans le dire, ajoute le quotidien. Voilà pour les unes. Ombline, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu ce matin ?
Connaissez-vous un phénomène chez les animaux qui s'appelle la féralisation ? Ce sont des animaux jadis domestiques, devenus sauvages, des animaux fugueurs qui un jour, poussés par un désir irrépressible de liberté, ont enfui leur enclos. C'est un article à lire sur le site du Monde, on les appelle ces animaux des animaux féraux. Et quand ils réussissent, c'est-à-dire quand ils ne meurent pas de faim ou de soif, eh bien on peut dire qu'on est franchement impressionné par leur vitesse d'adaptation. Il existe de très nombreux exemples sur la planète, des cas extrêmement différents et certains très anciens. Tout le monde connaît les dingos, ces chiens ensauvagés qui colonisent l'Australie, notamment depuis 4000 ans maintenant. Plus près de nous, les mouflons de Corse, il ne s'agit pas là d'une espèce sauvage indigène, mais bel et bien des descendants de moutons primitifs introduits par l'homme 6000 ans avant notre ère et après des dizaines de siècles de domestication, eh bien le mouflon corse est redevenu libre et figurez-vous qu'il a peu évolué par rapport au mouton domestique actuel qui, à force de croisement par l'homme pour une meilleure viande, une meilleure laine, a connu donc des modifications génétiques multiples. Ce que relèvent les spécialistes aussi, c'est que chez les mammifères, mais également chez les poissons et les oiseaux, la domestication s'est accompagnée d'une réduction de la taille du cerveau. Ça s'explique par une vie, disons, plus facile, sans menace de prédateurs, avec une nourriture abondante. Quand ils retrouvent la liberté, ces animaux, leur cerveau augmente à nouveau. Ils ne reviennent pas à la taille lorsqu'ils étaient sauvages,
initial, oui.
mais il augmente de taille encore.
C'est passionnant.
Cette image d'animaux qui gagnent leur liberté a quelque chose de poétique, hein. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus balayer de la main des problèmes que cela peut poser aux États-Unis. Des cochons féraux, donc, qui ont regagné leur liberté, ont fait décliner les populations de plus de 240 espèces de plantes et 8 espèces d'oiseaux, des animaux voraces, qui soulèvent donc des questions environnementale. Je vous invite à lire cet article très complet sur les animaux qui prennent la clé des champs sur le site du Monde, lemonde.fr.
Ça me fait penser à l'un de mes chats qui, dès que j'ouvre la porte, essaye de se faire la malle.
Oui, c'est ça.
Peut-être qu'il a envie que son cerveau augmente de taille.
Oui. Alors, la
j'y
question,
penserai la prochaine fois.
Est-ce qu'il va survivre sans ses croquettes ?
Ça, c'est la grande question. En même temps, il est tellement mignon que je pense qu'il aurait des croquettes à tous les coins de rue. Hein. Merci Ombline. Martin, à vous.
Oui, une question ce matin. Que deviennent nos bons vieux billets de banque ? Vous allez l'apprendre un peu plus tard dans la matinale. Nous, Français, restons très attachés à l'argent liquide, selon une récente enquête menée par la Monnaie de Paris. Sauf qu'on l'utilise de moins en moins depuis la pandémie et la généralisation, par exemple, du paiement sans contact. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de billets en circulation. En Grande-Bretagne, par exemple, la valeur cumulée des pièces et billets a triplé triplé en 20 ans. Pourtant, seul un tiers de ces billets est utilisé au quotidien. Et la situation est la même dans la zone euro. En février dernier, la BCE alertait. Seuls 15 à 20% des billets en circulation servent pour des transactions. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des billets de banque, nom trouvé par un ancien directeur de la Banque Centrale Britannique, sans vraiment l'expliquer.
Alors, que deviennent-ils ces billets, Martin ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Utilisation hors des frontières pour des vacances, par exemple. Épargne sauvage, pourquoi pas sous le matelas, comme à l'époque de nos grands-parents.
La thésaurisation,
voilà, exactement. Défiance vis-à-vis du système bancaire, mais aucune de ces hypothèses n'a jamais été confirmée. Et selon The Economist, plutôt que d'interroger des chercheurs, on devrait se tourner vers la police pour expliquer ce paradoxe des billets de banque. Depuis toujours, l'argent liquide permet au crime organisé d'effectuer des transactions sans laisser de traces.
Alors pourquoi est-ce que les banques centrales continuent à faire tourner les planches à billets ? Pourquoi est-ce qu'elles ne réduisent pas le volume de liquide en circulation ?
C'est une excellente question. Et là encore, The Economist a une hypothèse pour expliquer cette inaction. Selon le quotidien britannique, cela pourrait être lié au seigneuriage. Alors qu'est-ce que c'est que le seigneuriage ? Eh bien, c'est le bénéfice effectué lors de l'impression d'une monnaie, bénéfice lié à la différence entre le coût de production du billet et sa valeur. Alors je vous explique, par exemple, si vous imprimez un billet de 500 euros et qu'il vous coûte environ 1 euro à produire, l'État empoche 499 euros qui filent directement dans ses caisses. C'est pour cette raison, notamment, que l'UE a continué à imprimer des billets de 500 euros alors que tout le monde savait très bien qu'ils ne servaient qu'aux délinquants. L'émission de ces billets n'a été stoppée qu'en 2018. Des millions de billets de banque manquent à l'appel et personne ne s'en soucie. C'est à lire sur le site Slate.
Et ça remplit les caisses de l'État. Les Pink Floyd pour conclure le pressing de Martin Lange. Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui est en soi une énorme provocation à l'ère du réchauffement climatique et des prix du carburant qui crèvent le plafond. Un article anachronique qui pourrait très bien d'ici quelques décennies apparaître dans les manuels d'histoire avec cette mention. Voici la dernière voiture thermique de tous les excès. Ça ravigote, hein.
Voilà donc. Ça vous êtes fait plaisir ce matin.
Que fait la Bugatti Chiron Supersport, un bolide quelque peu énervé, puisque son moteur, un W16 à 4 turbos, développe quelques 1600 chevaux, soit 16 fois plus que votre petite Polo, ma chère Ombline.
Elle fait pas le même bruit.
Question consommation. Notre pur sang est du genre pilier de comptoir. Vous savez, ces clients qui demandent la petite sœur, puis la petite sœur de la petite sœur, et ainsi de suite. 22 litres minimum au 100 km. J'ai calculé, ça fait un Paris-Marseille à 300 euros, rien que pour le carburant. Ajouter à cela plus de 500 grammes de CO2 au kilomètre et on a là clairement la voiture idéale pour énerver les élus parisiens.
La voiture idéale, ça coûte combien cet engin ?
Alors je ne vous l'ai pas dit.
Une bagatelle.
Alors une Bugatti Chiron Supersport s'est facturée très exactement 3 859 200 euros. Pas donné, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais voilà, c'est le prix de la démesure, de l'excellence technique et du grand luxe. À ce tarif-là, évidemment, tout n'est que raffinement à l'intérieur, du cuir, de l'aluminium, du carbone, c'est de la haute joaillerie et de l'artisanat à la française. Puisque les Bugatti sont construites à la main à Molsheim en Alsace. C'est le prix aussi de la vitesse pure. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le compteur. Il est gradué jusqu'à 500 km/h et ce n'est pas pour la frime. Il est réellement possible d'approcher cette vitesse avec ce moteur. Bugatti l'a prouvé il y a 2 ans, test à l'appui. Mais comme c'est un brin excessif et un chouïa risqué d'aller plus vite qu'un avion de chasse au décollage, les ingénieurs alsaciens ont bridé la vitesse à 440 km/h. Ça reste tout de même bien plus rapide qu'une Formule 1. L'honneur est sauf. Alors, autant vous dire qu'avec 1600 chevaux survitaminés, la Chiron Supersport n'a aucune considération pour votre permis à points. Le 0 à 100 km/h est atteint en 2,4 secondes, soit 5 fois moins Ombline que votre vaillante Polo.
Oui. Alors, toujours pour stopper... Mais du coup, j'ai tous mes points.
C'est l'essentiel. Alors, pour stopper cet avion sans aile, la Bugatti a heureusement des disques de frein qui font chacun la taille d'une bouche d'égout et un astucieux aileron arrière qui se braque à la verticale pour faire office d'aérofrein. Pour autant, assure le journaliste du Figaro, qui a pu essayer cette voiture d'exception. Elle reste parfaitement utilisable au quotidien. Nous voilà rassurés. C'est en tout cas un collector. La Chiron Supersport est l'ultime Bugatti à moteur thermique. Le prochain modèle sera électrique. Et ne fera donc pas ce bruit incroyable.
C'est pas, votre familiale non plus, elle ne fait pas ce bruit-là.
Non, moi j'ai une hybride. C'est encore pire.
Ah bah oui, mais ça ne fait pas de bruit du coup. Bah c'est non, beaucoup non. Plus silencieux, effectivement. Merci beaucoup, Julien. Le pressing, on va l'appeler comme ça, c'est fini. Ça recommencera demain. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Les mutuelles de plus en plus chères, près de 2900 euros annuels pour un couple senior qui veut des garanties renforcées, si bien que certains Français renoncent à la complémentaire santé, résultat d'une étude meilleurtaux.com que vous révèle Europe 1 et aujourd'hui en France ce matin. Le plan France 2030 consacrera 800 millions d'euros au secteur de la robotique, dont la moitié pour la fabrication de robots à intelligence artificielle, annonce d'Emmanuel Macron hier en déplacement dans la Loire. Le parquet de Lyon ouvre une enquête pour tentative d'homicide. Des policiers de la BAC qui surveillaient un point de deal ont été visés par des coups de feu hier soir à la Duchère. Les recherches sont en cours pour identifier le ou les auteurs des tirs. Les sanctions vont bientôt tomber dans l'affaire des licences de pêche dans les eaux britanniques. Annick Girardin, la ministre de la Mer, et Jean Castex, chef du gouvernement, s'entretiennent ce matin pour décider des mesures de rétorsion à adopter.
Les initiatives en France, 5h21 sur Europe 1, la chronique qui met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce matin, Julien, on va parler sport.
Bonjour Cédric Messina.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur et PDG de MyCoach, une start-up basée à Nice, connue notamment pour son application de gestion des entraînements utilisée dans les clubs pro et amateurs. Et vous venez de lancer un tout nouveau service, MyCoach TV. Qu'est-ce que c'est ?
Alors MyCoach TV, c'est dans la continuité en fait de nos applications et de nos services. MyCoach est le partenaire d'une fédé olympique sur trois et plus d'une centaine de clubs professionnels. Et on s'était rendu compte en fait que ce qui créait l'usage chez nous, c'était la diffusion de contenu, notamment de fiches techniques, de vidéos, de conseils. Et on s'est dit, allons plus loin, proposons un service dédié en fait qui s'appelle MyCoach TV, où à l'intérieur de ce MyCoach TV, on propose des tutos qui sont octroyés par des champions. Et en fait, on a réussi à réunir une quarantaine de champions dans 14 disciplines qui donnent des conseils qui vont de la pratique du sport jusqu'à la prise en main des outils, jusqu'à des conseils personnels. Et je crois que c'est l'avenir en fait, l'avenir de quelle manière en fait on arrive à progresser en ayant des conseils de champions.
Et pas n'importe quel champion, hein. Hugo Lloris, Genil Sommer, Camille Lacour, Muriel Urtis ou encore Romain Ntamack. Comment vous avez réussi à convaincre tout ce beau monde de livrer leurs secrets ?
En fait, je crois que c'est la légitimité de MyCoach qu'on a pu avoir auprès des fédés des clubs pro. C'est une marque existante. Je rappelle qu'on est une quarantaine d'employés, qu'on est aujourd'hui parmi les marques fortes de la Sportech. Et on collabore avec des équipes nationales, donc ils nous connaissent. La deuxième étape, c'était de se dire, est-ce qu'aujourd'hui le Covid a renforcé en fait l'idée de la dépendance qu'on peut avoir aux acteurs américains, Netflix, Airbnb, et sur des diffusions grand public, ça n'a pas été difficile de les convaincre en se disant, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un leader qui s'appelle Masterclass, qui crée ce type de Masterclass, qui généralise, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité de le diffuser avec des athlètes français et se dire qu'on peut prendre le leadership sur ce type de plateforme.
Et c'est vraiment à destination du grand public, que l'on soit un sportif assidu ou du dimanche ?
Oui, c'est l'objectif en fait de MyCoach TV. Aujourd'hui, MyCoach, on est plus une approche directe par rapport au club, ce qu'on appelle B2B. Là, pour nous, ça a été de se dire on va démocratiser, désacraliser la pratique. Je crois qu'il y a des Jeux Olympiques qui vont arriver comme un effet révélateur sur une filière. Et on espère d'être aujourd'hui bénéficier de cet entrain et bénéficier de cet effet de levier en se disant qu'il y a 15 millions de Français qui sont licenciés dans des fédérations, 30 millions qui pratiquent au quotidien et se dire comment on les amène et on renforce leur pratique sportive, ben c'est une place à prendre et il faut que ça soit un acteur français qui la prenne.
Alors, comment ça fonctionne concrètement pour que nos auditeurs visualisent bien ? C'est-à-dire qu'on choisit sa discipline, le basket par exemple, et là j'ai Céline Dumerc qui me propose des exercices, des tutoriels ?
C'est exactement ça en fait, donc 14 disciplines, une vingtaine de champions, une vingtaine qui arrivent dans les prochaines semaines et on a pas mal de demandes entrantes. Donc en fait vous allez soit télécharger ou visualiser plutôt vos épisodes, donc vous achetez votre série pour 14,99€ ou soit on a un abonnement MyCoach Prime qui vous permet pour toute la famille pendant un an d'avoir des visions globales sur l'ensemble des pratiques et l'ensemble des champions.
J'imagine que l'enregistrement des vidéos a dû demander une grosse organisation et beaucoup de temps parce que l'agenda des sportifs de haut niveau, c'est pire que celui des ministres.
Hein. Ouais, c'est 2 ans de travail. Vous savez, lancer MyCoach Chemé, comme on a pu le faire, c'est une grosse équipe technique qui a réalisé cet exploit au milieu d'autres services. Aujourd'hui, une prouesse de nos équipes techniques. En même temps, c'est une organisation, la confiance des athlètes et c'est surtout la dimension et la manière dont on a réussi à tourner tous ces tutos. Parce que je crois que pour qu'il y ait une prise en main, il faut qu'il y ait de la qualité. C'est le cas aujourd'hui, avec beaucoup de didactique, de pédagogie, ce qui va faire de MyCoach TV une des plateformes référentes.
Et ces champions, ils reviennent aussi sur leurs difficultés, comment ils ont géré leurs blessures ou leurs coups de mou ?
C'est exactement ça, vous me devancez. C'est des champions, mais c'est aussi des êtres humains qui veulent partager leur expérience. Et chez la plupart d'entre eux, voire la quasi-totalité, il y a eu une envie de s'investir dans un projet, de faire vivre leur expérience. Vous avez quelqu'un comme Raymond Domenech qui parle de l'échec, par exemple. Vous avez Hugo Loris qui explique ses difficultés, qui donne des conseils ciblés. Vous avez un Pierre Durand, qu'on connaît tous, qui est le dernier vainqueur en équitation aux Jeux Olympiques, qui vous parle de la chute en équitation, et notamment qui revient sur une chute mémorable aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Voilà, c'était de se dire, on ne va rien cacher. Il y a la prise en main des outils, il y a l'apprentissage d'une pratique, mais il y a aussi ce qui fait la progression et notamment l'échec.
Merci beaucoup Cédric Messina de nous avoir présenté MyCoach TV, cette plateforme vidéo qui permet donc de bénéficier des précieux conseils de champions du sport français. Très bonne journée à vous.
En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre réveil. Il est 5h28 et dans une quinzaine de minutes, Nicolas Caro nous parlera du livre Un tesson d'éternité, le nouveau roman de Valérie Tong-Kuong. Mais avant cela, Omblin, direction la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain de Paris.
Elle se termine aujourd'hui et le clou du spectacle sera cette vente organisée par la maison d'enchères Sotheby's. Parmi les 35 lots se trouve un chef-d'œuvre de Magritte qui apparaît pour la première fois lors d'une vente publique. Il s'agit de la toile L'Art de la Conversation. Nous serons avec Thomas Bompard, qui est expert en art moderne chez Sotheby's.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
C'est la météo très sécurisée encore une fois ce matin d'Anissa Haddadi. De la douceur pour ce début de journée.
Oui, on a Jean-Yves qui nous écrit ce matin, qui nous dit qu'il est sur la route entre Orléans et Beaugency, c'est dans le Loiret, et il nous signale déjà 11 degrés, c'est vrai qu'il fait très doux. Bon, soyez prudents hein, Jean-Yves, parce qu'on a beaucoup de brouillard dans le secteur. Il y a énormément de brouillard sur quasiment toutes les régions. Ce matin, nous sommes sous l'influence de haute pression. Ça veut dire que ça plaque l'humidité de la nuit au sol, et donc on a des brouillards épais partout, sauf au bord de la Méditerranée. Alors ces brouillards vont avoir du mal à se dissiper dans le Grand Est. On a d'ailleurs ce matin des résidus de la perturbation d'hier avec des petites averses sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté jusqu'au Lyonnais. On a des averses également sur les côtes de la Manche. Cet après-midi, le ciel reste nuageux à l'est et des éclaircies reviennent par l'ouest. Les températures, je le disais, elles sont douces. 4 degrés à Rodez, 9 à Paris et Lille, 13 à Perpignan ce matin et cet après-midi, on aura 13 à 22 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, votre journal.
Europe 1.
On cherchait, on a des collègues qui cherchent depuis un an, qui n'ont pas une seule candidature. À partir du moment où on a fermé le samedi, on a eu des candidatures spontanées, on a eu le choix, et effectivement, on a fait une embauche.
L'opération séduction de ce salon pour convaincre les futurs coiffeurs de le rejoindre. Ici, pas de hausse de salaire, mais une promesse. Pas de travail le week-end. Une révolution dans le secteur. Les salariés maîtrisent de moins en moins bien le français, à l'oral comme à l'écrit. Les fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe sont légion. 3 employeurs sur 4 affirment y être confrontés. Et puis une addiction dont il est très difficile de se débarrasser. La drogue, bien sûr. Johanna Balavoine, la fille du chanteur disparu Daniel Balavoine, publie une bande dessinée autobiographique et pédagogique. Elle raconte le long cheminement qui l'a mené à la guérison.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Cherche coiffeur ou coiffeuse en CDI, week-end de repos garanti. Ce genre d'annonce finira peut-être par faire tache d'huile dans le secteur des services. À Strasbourg, un salon de coiffure vient de trouver la parade pour pallier le manque de personnel. Ici, pas de hausse de salaire, mais la promesse de fermer tous les samedis et dimanches. Et ça marche, les candidats se bousculent. Reportage Mélina Fachin.
C'est surtout la nuque qui est un petit peu longue. Super.
C'est inhabituel de voir un salon de coiffure ouvert le lundi. Et en plus, celui de John Paul est plein. En contrepartie, depuis la fin du premier confinement, il ferme les samedis pour que ses employés profitent pleinement de leur week-end. Et ça fonctionne.
En France, il y a 10 000 postes à pourvoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un métier qui est quand même très difficile. On est debout, on n'a pas de week-end, on n'a rien. On cherchait, on a des collègues qui cherchent depuis un an, qui n'ont pas une seule candidature. À partir du moment où on a fermé le samedi, on a eu des candidatures spontanées, on a eu le choix, et effectivement, on a fait une embauche.
Laetitia, qui a rejoint l'équipe en mai dernier.
J'ai fait une candidature spontanée chez John Paul, parce que justement, j'ai vu qu'il était fermé le samedi. Donc là, je peux encore plus me consacrer voilà, à ma famille, à mon enfant, donc c'est vraiment top de ce côté-là.
Et ces nouveaux horaires semblent tout à fait convenir aux clientes, comme Sylvie.
Ça m'arrange bien, je travaille le samedi. C'est bien pour nous, c'est bien pour eux.
Et en plus, ça rapporte en un peu plus plus d'un an, le chiffre d'affaires de John Paul a augmenté de 10%. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et selon la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, 264 800 emplois étaient vacants au deuxième trimestre.
On en vient à la crise sanitaire. Le nombre de contaminations repart à la hausse, même si elle reste modérée.
Oui, on est repassé au-dessus de la barre des 5000 cas positifs par jour en moyenne. Certains départements voient leur taux d'incidence repartir à la hausse. Pour l'instant, cela ne se traduit pas par un afflux de malades dans les hôpitaux. Moins de 6500 actuellement, dont un millier dans les services de soins intensifs. Chiffre parmi les plus bas depuis le début de l'épidémie.
Une victoire de plus pour les défenseurs des oiseaux. Le Conseil d'État suspend l'arrêté gouvernemental qui autorisait la chasse traditionnelle.
Le juge des référés estime que l'exécutif prend le risque de contrevenir au droit européen. L'interdiction des chasses d'oiseaux traditionnelles est donc à nouveau suspendue en attendant que le Conseil d'État se prononce sur le fond dans les prochains mois.
Et on entendra à ce sujet la réaction de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui sera à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk.
À Lyon, la justice ouvre une enquête après les tirs qui ont visé des policiers de la BAC dans le quartier de la Duchère lundi soir. Les fonctionnaires patrouillaient sur un lieu de deal lorsqu'ils ont été la cible de plusieurs coups de feu. Personne n'a été blessé.
Trop de fautes de français au travail. On y a tous été confrontés. On les lit, on les entend aussi parfois et ça peut être rédhibitoire.
Surtout vis-à-vis des employeurs, 3 sur 4 affirme lire des mails parfois compliqués, voire impossibles à comprendre. L'orthographe et la syntaxe sont souvent approximatives. Ce n'est pas mieux dans les lettres de candidature, truffées de fautes. Un mauvais point alors que la maîtrise du français est primordiale. Benoît Serre, président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines.
Ça peut être des véritables erreurs d'orthographe avec des mots qui ne sont pas écrits en français, ou alors des fautes de grammaire, mais très très évidentes, hein, où il manque un S avec le verbe être, ou alors... Il manque un S au pluriel ou des choses comme ça. Quelquefois, c'est des fautes qui sont tout à fait surprenantes, des fautes que vous pouvez trouver, j'imagine, en classe de quatrième. Lorsque vous recevez une lettre truffée de fautes de la part d'un candidat qui lui-même est Bac plus 3, vous vous interrogez quand même, quoi. Mais c'est pas tellement ça le sujet. C'est qu'on sait que ça impacte les gens dans leur carrière. Lorsque les personnes doivent faire un document qui doit partir à la direction générale, par exemple, qu'il est truffé de fautes, c'est évident que ça provoque des réactions à la direction générale.
Un propos recueilli par Wilfried de Villers, c'est tout de même assez savoureux à entendre, Julien, quand on sait que ces mêmes employeurs ont laissé, voire encouragé, l'anglicisme au bureau. Je vous en cite quelques-uns. Benchmarking, networking, on se fait un call pour caler un brainstorm, etc. etc.
Ouais, B2C, B2B, etc. Effectivement, le gouvernement a dégainé la semaine dernière son indemnité inflation de 100 euros. Elle sera versée à partir du mois de décembre. Et en Haute-Vienne, une entreprise va encore plus loin.
200 euros net pour remotiver ses salariés et leur permettre d'encaisser les différentes hausses telles que l'essence, bien sûr, mais aussi le gaz et l'électricité. C'est le choix de ce fabricant de chaussettes dont l'usine est installée au Car. Cette prime exceptionnelle sera versée à la fin de ce mois. Émeric Brousseau est le PDG de l'entreprise qui porte son nom.
Nous, on a une petite entreprise à la campagne. Et du coup, nos salariés font entre souvent 20, voire une heure de route pour venir travailler. Et aujourd'hui, ça leur coûte très cher. Donc, on a décidé de mettre en place une aide de 200 euros net. Ce n'est pas des robots, hein, qui font tourner nos usines, ce sont des personnes. Donc, nous, si on n'a pas des hommes et des femmes qui produisent des chaussettes aujourd'hui, l'entreprise, elle s'arrête et c'est fini. Donc, on préfère, nous, perdre un petit peu sur notre résultat. Peut-être qu'on investira un peu moins dans les machines l'année prochaine, un petit peu moins dans la rénovation du bâtiment. Mais leur donner cette aide-là pour essayer que leur quotidien soit le même ou en tout cas l'améliorer.
Et Mike Brousseau, le patron de l'entreprise Brousseau avec Nina Droff.
Au Soudan, la rue refuse le coup d'État et la communauté internationale accentue la pression sur la junte militaire.
Washington gèle 700 millions de dollars d'aide prévus dans le cadre de la transition démographique. La rue refuse le coup d'État et appelle à la grève générale alors que les manifestations se multiplient à Khartoum, la capitale. Elles ont déjà provoqué la mort de 3 personnes. Le général Buran, qui a renversé et fait emprisonner le Premier ministre et sa famille, promet de constituer un nouveau gouvernement compétent pour bientôt, dit-il. La Turquie renonce à expulser 10 diplomates occidentaux coupables à ses yeux d'avoir soutenu un homme d'affaires turc emprisonné depuis 4 ans sans jugement. Un recul qui évite au président Erdogan, en difficulté sur le plan intérieur, de se retrouver diplomatiquement isolé et économiquement affaibli.
On ouvre la page culture de ce journal avec la sortie des Lions endormis, une bande dessinée signée Johanna Balavoine.
La fille de Daniel Balavoine, chanteur décédé en 1986, Johanna Balavoine y raconte son addiction à la drogue, sa descente rapide aux enfers et son lent cheminement sur la voie de la guérison. Les Lions endormis raconte tout ça, mais cette bande dessinée autobiographique a aussi une vertu pédagogique. Naïma Bencheman.
Johanna Balavoine n'a jamais connu son père. Elle est née 5 mois après sa disparition. Une absence pesante qu'elle va combler au fil du temps par une consommation excessive de cocaïne. Avec sa BD Les Lions endormis, elle sort de l'ombre parce que les lions s'attaquent souvent aux proies les plus fragiles, Alors, elle veut mettre en garde.
Si l'enfant a des traumatismes, on est forcé d'y faire face un jour. Alors soit on y fait face, soit finalement on essaie de le combler. On a un vrai problème dans notre société d'addiction. Les gens font comme ils peuvent. Et c'est là où on a un manque de moyens, c'est là où on a un manque d'accompagnement. Et je trouve qu'on laisse trop faire.
La musique qu'elle a en héritage sera la voie de sa guérison.
Le matin aux saisons nouvelles.
L'acte d'aimer, c'est hyper important, de se tourner vers quelque chose, de le regarder. Je crois que quand on découvre ce savoir-là, ça change tout. Moi, c'est ce qui m'a sorti du vide, puisqu'on commence à le remplir de quelque chose qu'on aime.
À 35 ans, 3 ans après sa cure de désintoxication, Johanna Balavan va beaucoup mieux. Alors, elle veut aider les autres, car comme le chantait son papa, aimer est plus fort que d'être aimé.
Les Lions Endormis, bande dessinée de Johanna Balavoine, la fille de Daniel Balavoine, en collaboration avec la scénariste Sylvie Gaillard.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, priorité aux chevaux ayant déjà montré leur aptitude à cette surface, avec les numéros 2 Raj Kumar, qui n'a jamais déçu sur cette PSF cantilienne, 6 Droit de Parole, 3e cet été d'un quintet similaire sur le sable d'Auvillais, et pour lequel son entraîneur marseillais Charles Rossi n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis le sud-est, et 5 Royaumont, lauréat pour son unique sortie sur ce parcours, et associé au crack jockey Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Ensuite, je vous recommande Griegos, le numéro 9, dont les deux dernières tentatives à ce niveau peuvent être qualifiées de prometteuses, avec Houton, le numéro 3, qui partira avec la confiance de son entourage. Enfin, les numéros 4, Letis Marvel, 13, Agapimia et 1, Show of Time, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 6, 5, 9, 3, 4, 13 et 1.
Et tous ces pronostics sont à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. 5h39 à suivre, la vente exceptionnelle aujourd'hui d'un tableau de Magritte à Paris.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée à tous avec Europe 1. Il est 5h41 et c'est aujourd'hui que se termine la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain de Paris, au cœur d'un grand palais éphémère installé sur le Champ de Mars. Et pour mettre un point final à cette édition qui marque le retour de l'événement après 18 mois de crise sanitaire, la maison d'enchères Sotheby's va proposer à la vente un chef-d'œuvre de René Magritte. Nous sommes avec Thomas Bompard, expert en art moderne chez Sotheby's.
Bonjour Thomas Bompard.
Bonjour.
Ce chef-d'œuvre du peintre belge qui s'appelle L'art de la conversation fait partie des 35 lots proposés lors de la 5e édition de la fameuse vente aux enchères modernité organisée aujourd'hui par Sotheby's, une vente qui regroupe des œuvres d'art impressionniste moderne et contemporain. Au-delà d'être une œuvre du maître du surréalisme, qu'est-ce qui rend la vente de cette toile de Magritte encore plus exceptionnelle ?
C'est la toute première fois, depuis que ce tableau a été peint en 1950, qu'elle va affronter le feu des enchères. Donc c'est la toute première fois que plusieurs acheteurs potentiels vont pouvoir en découdre. Et ça correspond tout à fait à ce qui se passe en ce moment sur le marché de Magritte. Magritte est passé devant Picasso, devant Chagall, même devant Van Gogh, pour devenir l'artiste impressionniste et moderne le plus recherché par les collectionneurs du monde entier. Donc c'est vrai que d'avoir en ce moment un tableau avec le mot « amour », donc en français, peint de manière si originale et si surréaliste, dans une vente à Paris, un tableau de Magritte de cette qualité-là, c'est sûr que ça contribue à placer la ville de Paris comme vraiment un des hotspots du marché de l'art international.
C'est ce qu'on appelle un tableau mot, c'est bien ça?
C'est un tableau mot. Alors, c'est délicat d'en parler, de le décrire. Magritte était fasciné, on connaît le premier tableau qu'il a rendu célèbre, c'est le fameux « Ceci n'est pas une pipe », où Magritte avait peint une pipe et légendé avec le « Ceci n'est pas une pipe ». Donc depuis toujours, il a toujours interrogé les relations très complexes qu'il pouvait y avoir entre les mots et les choses, entre le signifiant et le signifié. Et c'est la toute première fois dans son œuvre, donc peint en 1950, il peignait depuis plus de 30 ans, qu'il a l'idée de peindre un mot en lui donnant la forme d'une chose. Et c'est une idée surréaliste finalement assez géniale, qui sera reprise par beaucoup d'images publicitaires. Magritte est probablement l'artiste moderne qui a le plus influencé la publicité, les images sur Instagram. Il y a comme ça une espèce d'évidence, il y a toujours un côté ludique avec les images chez Magritte qui rendent ses peintures complètement contemporaines.
Ce tableau mot, cette toile, l'art de la conversation, avait une importance toute particulière aux yeux du peintre.
En fait, les surréalistes, vous savez, il y avait André Breton qui avait dit dans les années 20, si vous aimez l'amour, vous aimerez le surréalisme. Les surréalistes ont toujours été des grands révolutionnaires. Il y a, on va dire, un seul grand thème classique qu'ils n'ont pas voulu attaquer, et bien au contraire, qu'ils élevaient comme une sorte de grande valeur surréaliste et romantique, c'était l'amour. Donc c'est sûr que l'amour à un thème est un thème qui continue de fasciner les artistes surréalistes, même les plus cérébraux. Et Magritte avait tellement d'amour pour ce tableau amour qu'il l'a confié d'abord à un marchand américain et l'a regretté. Et au bout de quelques semaines, il appelle ce marchand et lui dit finalement, je veux récupérer ce tableau, j'ai envie de vivre avec. Il le récupère, il vit avec pendant 6 ans. Et il y a un de ses meilleurs collectionneurs qui s'appelle Harry Torsiner qui, comme ça, lui demandait à peu près une fois par mois s'il voulait bien lâcher ce tableau à la vente. Et après 6 ans, Magritte a finalement accepté de le lui céder. Donc même Magritte avait donné une sorte d'importance assez particulière à ce tableau au milieu du millier d'autres tableaux que Magritte a peint.
Et l'œuvre fait partie aujourd'hui d'une prestigieuse collection belge, avant d'être vendue dans quelques heures. Donc.
Exactement. Le tableau vient d'une collection du même pays que l'artiste.
C'est le dernier jour de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain de Paris. Comment le marché d'art se porte-t-il après 18 mois de crise sanitaire? Quel est votre ressenti?
Il va très bien pour plusieurs raisons. La crise sanitaire, finalement, a donné l'habitude à beaucoup d'acheteurs d'acheter sans avoir l'obligation de se déplacer pour voir le tableau avant l'achat. Donc maintenant, tous les collectionneurs du monde entier sont tout à fait à l'aise, si vous voulez, avec le fait de pouvoir enchérir sur un tableau qu'ils n'ont pas eu le loisir de voir. Donc on leur envoie des vidéos, on leur envoie plein de photographies. On essaie de pallier, si vous voulez, à cette absence de contact physique. Mais maintenant, c'est une règle qui est acceptée par tous les collectionneurs. Et puis comme, si vous voulez, les collectionneurs ont gardé pas mal de liquidités pendant la pandémie, il n'y avait aucune foire, les galeries sont restées pendant très longtemps fermées. Donc si vous voulez, un grand collectionneur qui voulait depuis un an et demi s'acheter un grand Magritte, il n'a pas eu tant que ça d'opportunités. Donc dès que le marché de l'art présente un tableau un peu exceptionnel, pour le coup, on a encore vu des prix records, même à Paris, continuer de s'établir, même dans un contexte de pandémie. Donc le marché de l'art va vraiment très bien.
Merci beaucoup, Thomas Bompard. Je rappelle que vous êtes expert en art moderne chez Sotheby's, la maison d'enchères qui va proposer à la vente aujourd'hui, notamment la toile « L'art de la conversation », un chef-d'œuvre de René Magritte. Merci, très bonne journée.
Merci madame, bonne journée.
On poursuit notre tour de la culture à 5h46 sur Europe 1, mais là en revanche, pas besoin de débourser des millions d'euros pour s'évader. On parle littérature avec Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman, Un tesson d'éternité de Valérie Tong-Kyong. C'est chez Lattès.
Oui, c'est l'histoire d'Anna Gauthier. Elle a une chouette vie au bord de la mer, elle est pharmacienne, elle a un mari gentil, Hugues. Il était journaliste pour le journal local et puis il a été licencié, ça a été un peu dur, mais il a bien rebondi. Il a trouvé un poste aux affaires culturelles de la ville, ça lui plaît, c'est parfait. Et puis il y a Léo, le fiston, 18 ans tout juste, il va passer le bac. Là, dans quelques semaines, c'est un bon garçon, pas d'angoisse, pas de problème, des copains, Tim surtout, son meilleur ami, des copines, une copine aussi en particulier. Et puis il y a Alix et Géraud, un couple d'amis qui viennent dîner de temps en temps. Ce sont justement les parents de Tim. Tout est très bien, aucune tâche.
Ça n'a pas l'air très très palpitant votre roman là, Nicolas.
Attendez, plus ça se passe bien au début, plus la chute est rude. Au deuxième chapitre, boum 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 boum, il est 6h30 du matin. Anna est réveillée par le bruit. On frappe à la porte, mais c'est quelqu'un d'énervé. Manifestement, c'est la police. La gendarmerie, en fait. Anna et Hugues ouvrent la porte et là, ils voient déferler une armée. Les gendarmes qui ouvrent toutes les portes, qui cherchent Léo.
Léo, il est arrêté ?
Tout juste, menottes et tout. Anna demande pourquoi, bien sûr, mais les gendarmes ne peuvent rien dire.
Et nous, on peut savoir ?
Pas tout de suite, on attend avec Anna parce que c'est ça, ce roman. C'est le point de vue d'une mère dont l'enfant est arrêté. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Valérie Tong-Kyong a enquêté pour sa fiction, elle a travaillé tous les détails.
Les parents n'ont pas accès aux informations dans un premier temps et puis ils se trouvent donc en prise avec toutes ces... Ce déferlement d'aspects très pratiques, très concrets. Par exemple, les gendarmes vont demander à la mère de préparer un sac de vêtements. Et lorsque la mère prépare ce sac de vêtements, elle est loin d'imaginer que eh bien, les vêtements bleus ne sont pas autorisés en prison. Et donc, elle va mettre un jean, elle va mettre tout un tas d'affaires qui sont surtout bleues. Et voilà, ce genre de petits détails va s'accumuler et former une sorte de tsunami, comme si on les envoyait dans une autre dimension, un autre monde, avec des règles complètement différentes auxquelles ils sont soumis habituellement.
Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Léo, alors ?
Alors, je ne vous dirai pas, je vous laisse lire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est condamné, direction la prison, et tout y passe. Les amis qui tournent le dos, trouver un avocat, etc. Et puis le quotidien, pas du détenu, c'est pas un polar, hein. On n'assiste pas aux bagarres, aux tentatives d'évasion, ce genre de choses. Non, on suit Anna, qui devient proche de détenu, et c'est suffisamment romanesque comme ça. Valérie Tongkuang.
C'est en fait ce territoire-là complètement inconnu et dans lequel se trouvent précipités des gens qui ne sont absolument pas préparés à ça, que je voulais raconter parce que la première fois, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on a tous des références à travers des séries, des films, parfois quelques livres, mais ce que l'on vit soit lorsqu'on va voir son proche en prison, ça, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Or, en fait, le proche, il entre d'une certaine façon en détention lui aussi, puisqu'il n'est plus maître de son emploi du temps, avec les parloirs, parce que les parloirs, on ne choisit pas les moments qui nous arrangent, donc on prend ce qu'on nous donne, et en sachant que s'ils ont 2 minutes de retard, on ne les laissera pas passer l'enceinte de la prison. Et on va recevoir une liste de consignes, c'est un annuaire, vous disant ce que vous avez le droit d'apporter ou pas. C'est inimaginable.
Et nous, donc, Nicolas, on suit la mère, hein, vous l'avez dit, elle essaye de le sortir de là.
Oui, enfin, elle essaye de comprendre aussi, il y a de la culpabilité, est-ce à cause de mon éducation, qu'est-ce que j'ai manqué, il y a la responsabilité. Et puis, avant tout, quand même, elle est la seule à le défendre, sans excuser, mais elle est son seul secours, et ça, c'est très beau. Et puis, il y a une réflexion sur les réseaux sociaux, la pression sociale, parce que la faute de Léo a été filmée, et donc tout le monde a son avis. C'est le roman ultime sur le processus judiciaire.
Et ça s'appelle Un tesson d'éternité chez Lattès. Merci Nicolas Carreau.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10, l'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Les mutuelles, toujours plus chères, comptez en moyenne 2 900 € par an pour un couple senior. Des tarifs exorbitants qui poussent certains Français à y renoncer. Résultat d'une étude meilleurtaux.com dévoilée en exclusivité ce matin par Europe 1 et Aujourd'hui en France. Autre information Europe 1, Éric Zemmour lancera son parti fin novembre, parti qui devrait s'appeler Vox Populi, comme nous vous le révélions il y a 2 semaines. Le polémiste prévoit d'annoncer sa candidature à la présidentielle autour du 11 novembre. Et puis, une enquête ouverte pour harcèlement à Mulhouse hier après le suicide de Dina, une lycéenne de 14 ans, au lendemain d'une marche blanche qui a réuni 1400 personnes.
Europe Matin.
On va maintenant au plus près de chez vous avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Juliette Laferrère.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à la Dordogne Libre, où l'on peut lire ce matin un article sur une école de musique un peu particulière qui vient d'ouvrir à Trélissac, près de Périgueux. Racontez-nous.
Oui, alors c'est une grande première, cette école de musique, parce qu'en fait, ce sont deux artistes périgourdins qui l'ont créée. Et ce sont deux artistes qui sont plutôt connus de la scène culturelle périgourdine, parce que c'est un duo qui s'appelle Paris-Londres, et qui en fait jouent de la musique depuis 20 ans dans le Périgord noir. Et puis ils ont eu cette idée de transmettre, alors ils étaient déjà professeurs, mais ils avaient vraiment envie de s'installer. Donc ils ont eu cette idée d'école de musique à Trélissac qu'ils ont lancée au mois de septembre.
Et on y joue de la guitare et du violon uniquement, c'est bien ça ?
Absolument, parce qu'en fait, il s'agit de Bruno Vattis, qui est guitariste, et puis il est accompagné de son épouse Sophie Ride, qui elle est violoniste. Donc en fait, chacun, ils ont pris des commandes. Le premier dispense les cours de guitare et la seconde fait les cours de violon. Et alors, Sophie Ride, elle a une petite particularité, parce qu'elle enseigne la pédagogie Suzuki. C'est une pédagogie qui vient du Japon. Elle est la seule à le faire dans le coin. Et ça consiste en fait à apprendre la musique sans passer par le solfège, ou en tout cas pas tout de suite. Donc c'est apprendre des morceaux de mémoire. Et ça permet aux enfants, dès 3 ans, de se lancer dans la musique puisqu'ils n'ont pas à lire le solfège.
C'est les enfants le public prioritaire, en tout cas visé en priorité ?
Oui, alors pour Sophie, oui, c'est sa première exigence, tandis que Bruno, il fait dès 7 ans, et puis après c'est pour les adultes aussi, tout niveau confondu.
Alors il n'y a pas beaucoup d'instruments, hein, on l'a dit, guitare et violon, en revanche, on peut y jouer de plein de styles musicaux différents.
Oui, c'est des artistes qui sont quand même spécialisés dans la musique folk, pour autant, ils sont quand même attachés à faire un enseignement assez généraliste. Donc il y a du folk, il y a du classique, il y a beaucoup, beaucoup de guitares acoustiques parce que c'est un petit peu le dada de Bruno. Mais il y a un peu de tout pour tous les goûts.
Alors, autre particularité de cette école, elle est installée dans d'anciens abattoirs.
Oui, alors ça, je n'étais pas trop d'accord pour qu'on en parle, mais c'est assez anecdotique en fait. C'était un abattoir de canards. Donc c'est un bâtiment industriel qui a officié, mais il y a quand même de nombreuses années. Et alors il a fallu tout réaménager parce qu'en fait ils ont installé l'école au rez-de-chaussée qui était en fait le laboratoire et les chambres froides où les canards étaient transposés et transformés.
Heureusement qu'ils ont fait des travaux, hein, parce que
oui.
Jouer de la musique dans des chambres froides, ça ne doit pas être exceptionnel. Il y a aussi une scène génial. Pour les représentations et même un studio d'enregistrement.
Sophie, en fait, elle a installé un petit espace scénique dans sa salle de cours de violon parce qu'elle tient vraiment à mettre les élèves en situation parce qu'en fait, comme toute école, ils vont organiser des concerts publics à raison de 2 fois par an. Et pour les préparer et les mettre en condition, elle a voulu installer ce petit espace. Il n'y a pas de scène, mais il y a un rideau, il y a des éclairages, il y a tout ce qu'il faut. Tandis que pour Bruno, il y a un véritable studio d'enregistrement où parfois, je crois qu'ils ont proposé à des adolescents d'enregistrer dans les vraies conditions de studio et dont ils se servent eux aussi en tant qu'artistes pour enregistrer leurs propres albums.
Merci beaucoup Juliette Laferrère de nous avoir raconté cet article à lire donc aujourd'hui dans la Dordogne Libre. Très bonne journée à vous. Il est 6h. Les fautes d'orthographe, un frein à l'embauche pour 8 recruteurs sur 10, c'est la conclusion d'un sondage Ipsos, des lacunes à l'écrit comme à l'oral accentuées par le télétravail et ses réunions à distance. L'épidémie de Covid, bientôt la saison 5, les contaminations repartent à la hausse, un virus qui, selon une étude lilloise, peut endommager notre cerveau, y compris en cas de forme légère de la maladie. Et puis une vague de grève inédite aux États-Unis, oui, les travailleurs réclament une hausse des salaires et tous les secteurs de l'économie sont concernés. Pourquoi cette prise de conscience ? Décryptage à suivre avec notre correspondant.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Au jour d'aujourd'hui, je vous joins avec un thé ce document pour pallier à mon absence. Vos oreilles tiquent, c'est normal. Cette phrase est truffée de fautes de français, des erreurs de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, courantes chez les salariés ou même les candidats à un entretien d'embauche. 3/4 des employeurs y sont confrontés, d'après un sondage Ipsos pour la Fondation Voltaire. Des lacunes révélées par la crise sanitaire. Virginie Riva.
Une faute d'orthographe sur le CV, une mauvaise concordance des temps à l'oral, une erreur de vocabulaire au cours d'un entretien, c'est rédhibitoire pour 8 employeurs sur 10. Pour le recrutement d'abord, mais aussi au-delà, pour la crédibilité du salarié et de l'entreprise. Et ça concerne tout type de salarié. Mélanie Viennot, présidente de la Fondation Voltaire, qui a commandé le sondage.
C'est tout type de poste. Aujourd'hui, on écrit beaucoup plus. Du fait du télétravail, du fait de l'évolution des fonctions. Donc que ce soit sur des postes de technicien, de commercial, de manager, d'encadrant, tous ces postes sont concernés. Quelqu'un qui fait des fautes, on a tendance à trouver qu'il est moins compétent ou moins intelligent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour les employeurs, c'est un vrai problème d'image. Quelqu'un qui s'exprime mal, quelqu'un qui fait des fautes, ça nuit à l'image de toute l'entreprise.
Le télétravail a de plus accentué ce phénomène à l'oral également, car désormais il y a moins de temps informel, plus de réunions. Il faut donc être percutant, plus succinct, maîtriser son expression. 9 employeurs sur 10 estiment que la qualité de l'expression orale est encore plus nécessaire qu'avant la crise sanitaire.
Virginie Riva.
Plus de 5000 nouveaux cas de Covid par jour et c'est même le 3e jour consécutif selon Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés reste en revanche quasi stable depuis la mi-octobre.
Pourtant, même avec une forme légère de la maladie, le virus peut laisser des séquelles dans notre organisme. C'est le résultat d'une étude menée par une équipe lilloise. Selon ces scientifiques, le Covid serait capable de passer par le sang tout droit jusqu'à notre cerveau. Les explications d'Afsan et Saboui.
Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que le Covid pouvait atteindre le cerveau par le nez. On sait maintenant qu'il arrive aussi très vite dans le sang. Et de là, il va attaquer directement la barrière de cellules qui protège notre cerveau des microbes. Même chez les personnes qui ont peu de symptômes, le virus va créer des sortes de brèches, comme l'explique Vincent Prévost, neuroscientifique à l'INSERM à Lille.
Des micro-hémorragies dans le système nerveux central qui vont être
très néfaste dans un premier temps. Et puis ensuite, une fois que ces cellules sont mortes et que le sang ne circule plus à travers ces vaisseaux, ça va créer ce qu'on a appelé des vaisseaux fantômes. C'est-à-dire qu'on a le fantôme du vaisseau qui reste dans le cerveau, mais il n'y a plus de sang qui passe à travers. Et du coup, les neurones ne vont plus avoir accès aux nutriments qu'ils ont besoin pour fonctionner.
Alors la bonne nouvelle, c'est que le phénomène est réversible, les vaisseaux fantômes disparaissent d'eux-mêmes, mais ces zones du cerveau restent fragilisées. On a peut-être là l'explication des migraines, de la fatigue ou encore du brouillard cérébral dont souffrent les patients Covid long. Et les scientifiques redoutent aussi d'avoir découvert un nouveau facteur de risque des maladies d'Alzheimer et de Parkinson.
Afsane Sabouy, spécialiste santé d'Europe 1. C'est l'information de la nuit, un appel à témoins lancé dans l'Essonne après l'abandon d'un enfant dans une gare RER. Vendredi soir, une femme a demandé de l'aide pour descendre sa poussette du train. Un homme venu prêter main forte s'est retrouvé sur le quai avec l'enfant dans les bras. La maman était remontée dans le RER juste avant la fermeture des portes et n'a plus donné aucune nouvelle.
6h passées de 3 minutes sur Europe 1. On en vient à cette question. Espèce ou carte bleue? Et vous, qu'est-ce que vous dégainez en premier quand vous passez à la caisse?
70% des Français utilisent de l'argent liquide tous les jours pour la baguette de pain ou le ticket de parking, par exemple. C'est une enquête Ipsos pour la Monnaie de Paris qui le dit. Un mode de paiement plus sécurisé, vecteur de lien social aussi, selon ce sondage. Élise Dangean, si les Français ont toujours donc de la monnaie dans la poche, la carte bancaire, elle, n'est jamais très loin.
Oui, c'est la grande gagnante de cette pandémie, notamment grâce au paiement sans contact qui permet le respect des gestes barrières et dont le plafond a été augmenté l'an dernier. Selon la Banque de France, près de 40% des Français ont réduit leur utilisation des espèces pendant la crise sanitaire. Résultat, l'an dernier, le sans contact représentait 4,6 milliards de transactions contre 3,4 l'année précédente. Au total, nous dit le groupement des cartes bancaires, les paiements par carte pèsent pour 66% des dépenses de consommation courante des ménages, soit 5 points de plus qu'en 2019. C'est sans compter le boom des portefeuilles électroniques, PayPal, Paylib, Google Pay ou encore Lydia qui a presque doublé son nombre d'utilisateurs depuis le début de la crise sanitaire.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
La crise sanitaire qui a bouleversé aussi notre rapport au travail, y compris au pays de l'oncle Sam, confronté à une vague de grève inédite.
Striketober, contraction de grève, et octobre, c'est le nom donné à ces mouvements sociaux aux États-Unis. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Ces travailleurs grévistes réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Et Alexis, tous les secteurs de l'économie américaine sont concernés.
Oui, infirmières, hôtesses de l'air ou encore céréaliers, tous ont stoppé le travail pour faire pression sur leurs patrons et obtenir des hausses de salaire. Tevita Ouattafé travaille dans le secteur de l'aviation. Selon lui, de nombreux Américains ont ouvert les yeux grâce à la pandémie.
Quand le temps est arrivé de vraiment récompenser ceux qu'on a appelés des héros, rien ne s'est produit. On est fatigué, c'est notre réalité en tant que travailleurs aux États-Unis. On ne se sent pas reconnu à notre juste valeur.
Les travailleurs américains s'estiment oubliés alors que leurs entreprises ont réalisé d'importants profits pendant la pandémie. Syndicaliste Tevita Ouattafé a rencontré ces dernières semaines de nombreux grévistes au Midwest et sur la côte ouest.
On apprend en temps réel la force de l'unité et de la solidarité entre travailleurs. C'est quelque chose d'inédit depuis une génération aux États-Unis. Ce ne sont pas seulement les syndicats, même les salariés non syndiqués sont fatigués par ce qu'il se passe.
Une prise de conscience pour les salariés américains qui sont en plus en position de force. Les employeurs font face à une pénurie de main-d'œuvre alors que chaque mois, des millions de travailleurs démissionnent.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
C'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et le 15 de France a un nouveau capitaine.
Oui, pour la tournée de novembre, le demi-de-mêlée Antoine Dupont a été choisi par Fabien Galthié et son staff pour mener les Bleus face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Il supplée Charles Olivon, un blessé et absent encore de longs mois. Le 15 de France qui devra par ailleurs se passer de Virimi Vakatawa et Winny Antonio, et aussi blessé. Le Toulonnais Luc et le Toulousain Aldeguerri ont été appelés en renfort.
Sélection toujours et on connaît depuis hier celle de la Coupe Davis.
Oui, le capitaine Sébastien Grosjean a présenté hier les 5 joueurs retenus pour affronter la République tchèque et la Grande-Bretagne dans un mois à Innsbruck. Hugo Humbert sera leader derrière lui, Richard Gasquet, Arthur Rinderknecht, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Pas de Gaël Monfils, hein, pourtant numéro 1 français à l'ATP, mais Grosjean justifie ses choix.
J'avais envie également de faire un mélange de joueurs jeunes comme Hugo et Arthur, avec de l'expérience également en coupe avec Richard, Nicolas et Pierre Hugues. Un joueur comme Arthur a gagné plus de 50 matchs cette année. Hugo a déjà représenté la France, que ce soit au JO, avec de très bons résultats. Voilà, donc c'est un mélange de jeunesse et d'expérience.
Le capitaine des Bleus peut encore faire 3 changements et il scrutera avec attention les résultats des Français à Bercy la semaine prochaine.
De la moto, Martin et la Fédération française espèrent surfer sur le succès de Fabio Quartararo.
Oui, actuellement forte de 100 000 licenciés, la FFM compte faire des émules, mais comme tous les autres sports mécaniques, elle doit faire face à d'autres défis, notamment la transition écologique et l'arrivée des motos électriques, une nouveauté qui n'est pas sans poser quelques problèmes selon son président Sébastien Poirier.
Aujourd'hui, la difficulté électrique pour nous en compétition, c'est l'absence de bruit. Donc peut-être on aurait intérêt à revendiquer un bruiteur pour faire en sorte que lorsqu'on est en compétition, on a un niveau de bruit, et lorsqu'on est en entraînement, on n'est plus de bruit. Nos spectateurs ne veulent pas de motos qui ne feraient pas de bruit. Donc ça fait partie du spectacle, et donc à nous de trouver l'équilibre entre tout ça.
Le bruiteur a une solution aussi pour votre Bugatti électrique, Julien.
Une fois n'est pas coutume, on finit avec le foot, Martin.
Oui, avec la commission de discipline qui n'en finit plus de sanctionner suite au débordement en tribune. Saint-Etienne écope d'un huis clos total après les incidents de ce week-end contre Angers. Une mesure conservatoire avant une décision définitive le 17 novembre. Et puis une information plus légère pour terminer, c'est le feuilleton qui vous a tenu en haleine toute la semaine dernière. Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara se sont réconciliés. L'attaquant du PSG va maintenant pouvoir se concentrer sur le terrain.
Nous voilà rassurés.
Il est Merci Martin. Il est 6h08 sur Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, un sujet qui anime la campagne présidentielle, la transition énergétique. RTE a dévoilé hier 6 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050, dont 5 ayant recours au nucléaire. On en parle dans 2 minutes.
5h, 6h30,
Europe Matin. 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a présenté hier une étude très attendue à 6 mois de la présidentielle. Un rapport listant 6 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On en parle, Julien, avec le porte-parole de l'association Négawatt.
Bonjour Marc Jedliska.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. 6 scénarios donc, allant du tout renouvelable au 50% de nucléaire, ce qui nécessiterait le maintien d'une partie du parc existant et la construction de 14 EPR. Pour résumer, RTE dit ceci, l'éolien et le solaire vont quoi qu'il en soit devoir être développés massivement, mais si on veut atteindre la neutralité carbone à moindre coût, il va falloir continuer à miser sur l'atome. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Non, pas tout à fait. Les hypothèses qui sont prises pour le nucléaire n'ont pas été challengées. C'est-à-dire que RTE a pris tel quel les prix ou les coûts que EDF a donné à l'État et l'État l'a transmis. RTE n'a pas critiqué. Par contre, sur les renouvelables, il y a des hypothèses de coûts qui sont beaucoup plus, on va dire, sévères. Il y a une forme d'inégalité de traitement. Donc, de notre point de vue, non, c'est même le contraire. Le renouvelable est plutôt moins cher.
Donc, pour vous, RTE se fourvoie en pensant que le nucléaire coûtera moins cher à développer que les énergies renouvelables ?
Alors non, RTE a bien fait son travail. On a suivi ça depuis 2 ans, puisqu'il y a beaucoup de groupes de travail. Il y a de très bonnes nouvelles dans le travail de RTE. D'abord que l'État fasse de la prospective à 2050, c'est nouveau. Nous, ça fait 20 ans qu'on en fait. Mais pour l'État, c'est vraiment la première fois. Le deuxième élément, c'est que RTE dit bien qu'un système 100% renouvelable est possible, techniquement.
Mais ça coûterait beaucoup plus cher.
Non, pas beaucoup plus cher, ça c'est leur hypothèse. Nous, on a des hypothèses contraires. On va dévoiler aujourd'hui notre propre scénario de ce matin à Paris, et on a des hypothèses qui sont pas les mêmes. Et par ailleurs, par contre, RTE ne parle que d'électricité, c'est son gros défaut. Nous, on parle de toutes les formes d'énergie, pas seulement l'électricité, qui représente 25% de nos consommations. Ça, c'est un point tout à fait important, on approche beaucoup plus globale.
Ce que dit RTE également, c'est que certes, le tout renouvelable est techniquement possible, mais il va falloir encore créer des technologies, notamment concernant le stockage.
Non, c'est faux. Ces technologies existent. D'ailleurs, leurs travaux le montrent. Elles existent aujourd'hui à un niveau suffisamment avancé pour qu'on soit certain de pouvoir les utiliser. Il faut les industrialiser. Il faut les faire grandir. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des technologies qui sont utilisées dans l'industrie chimique, sur les réseaux électriques, comme les compensateurs synchrones, le power to gas. Par contre, ce que RTE fait, un gros défaut de RTE, c'est qu'il considère que la consommation va augmenter de 35%. Ça, c'est la SNBC, c'est aussi l'État qui le dit. Nous considérons qu'une augmentation de 15 à 16% est suffisante, y compris pour absorber l'électricité, la conversion des véhicules thermiques à l'électrique, parce qu'on a beaucoup d'efficacité énergétique possible dans les appareils électriques.
Pour revenir au mix énergétique, si je comprends bien votre raisonnement, pour vous, ce serait un non-sens, un très mauvais calcul si Emmanuel Macron venait à annoncer prochainement la construction de 6 nouveaux EPR, comme cela semble se dessiner ?
Non seulement ce serait un très mauvais calcul d'un point de vue économique, mais ce serait antidémocratique qu'il décide tout seul dans le château de l'Élysée à 6 mois d'une élection présidentielle, alors qu'on a les éléments de choix, puisque là on est vraiment RT, nous dit on a le choix, c'est un choix politique, mais un choix politique qui doit être pris par l'ensemble des Français et pas par un seul d'entre eux.
Alors vous l'avez dit, l'association Négawatt, dont vous êtes le porte-parole, va dévoiler tout à l'heure son propre scénario de la transition énergétique. Quel en est l'élément clé ?
L'élément clé, c'est notre fameuse approche négawatt, sobriété, les comportements en premier, l'efficacité des appareils, des voitures, ça c'est l'ingénieur en deuxième, et puis les renouvelables en troisième. Ça fait 20 ans qu'on fait des scénarios, et à chaque nouvelle, tous les 5 ans on sort un nouveau scénario, et à chaque nouvelle version, on confirme nos hypothèses, et même la technologie, l'industrie avance. C'est vrai pour les renouvelables qui ont baissé leurs coûts, c'est vrai pour tous les moyens de stockage qui aujourd'hui sont opérationnels. Il y a des démonstrateurs en France et en Europe de ces technologies-là. Et cette année, en plus, on a beaucoup abordé la question des matériaux, des matières premières. Par exemple, a-t-on assez de lithium pour faire rouler tous les véhicules électriques ? Non, nous pensons qu'il faut être très prudent là-dessus. Et puis, nous avons aussi beaucoup de choses sur ce qu'est l'alimentation, ce qu'est l'usage des terres, l'agriculture. Donc, on a vraiment une vision globale de notre système énergétique et pas seulement électrique.
Votre objectif, qu'on soit bien clair, c'est qu'on réduise de moitié notre consommation énergétique d'ici 2050, c'est bien ça ?
Oui, c'est notre objectif, mais c'est surtout, on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est dans la loi de 2015.
Sans raboter notre confort.
La transition énergétique pour une croissance verte prévoit que la France s'est donné comme objectif de diviser par deux notre consommation d'énergie finale. Et ceci sans modifier notre confort général.
On est bien d'accord, vous proposez un scénario 100% énergie renouvelable. On sortirait totalement du nucléaire.
Oui, alors progressivement, c'est-à-dire que cette année, parce qu'on a beaucoup retardé, notamment les travaux de rénovation du logement, par exemple, ça oblige à prolonger quelques réacteurs jusqu'à 2045. Les générations précédentes, on les fermait plus tôt. Donc on ferme le nucléaire au fur et à mesure qu'on consomme moins d'énergie d'un côté et que les renouvelables de l'autre côté montent en puissance.
Mais comment faire accepter aux Français de multiplier des éoliennes dont bien souvent ils ne veulent pas à côté de chez eux, ni au large de leur côte ? D'ailleurs, vous voyez bien le nombre de recours qui sont déposés à chaque fois.
Alors le nombre d'éoliennes qu'il y a dans le 100 MW en 2050, c'est moins que ce qu'il y a aujourd'hui déjà en Allemagne. Donc c'est pas une invasion la France est un pays beaucoup plus grand, beaucoup moins dense. C'est pas du tout une invasion d'éoliennes partout. Il y en a 18 à 19 000, c'est suffisant. Et donc on pense, nous, que c'est quelque chose qui est acceptable. Il faut simplement dire aux Français que l'éolienne, c'est aussi une activité économique, c'est aussi des ressources locales. Et si c'est piloté, si c'est géré par les collectivités locales ou par les citoyens, ça rapporte aux gens qui les voient. Aujourd'hui, on a un système un peu invasif où ce sont de grands groupes qui viennent installer ces machines près de chez vous.
Sans beaucoup de concertation avec les populations locales, effectivement, qui du coup se braquent. Merci beaucoup Marc Jedliska, porte-parole de l'association Négawatt, d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant. Bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
6h17 sur Europe 1, à suivre la partition de Whitney Houston.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est bientôt 6h20 sur Europe 1. Voici les principaux titres de ce mardi avec Alban Leprince.
Les tarifs des mutuelles atteignent de nouveaux records. Comptez par exemple près de 2900 euros par an pour un couple de seniors qui veut des garanties renforcées, selon une étude meilleurtaux.com révélée ce matin par Europe 1 et Le Parisien. Des policiers de la BAC visés délibérément par des coups de feu hier soir à Lyon, à la Duchère, alors qu'ils surveillaient un point de deal. Le parquet ouvre une enquête pour tentative d'homicide et les recherches se poursuivent pour tenter d'identifier le ou les auteurs des tirs. À Hollywood, l'assistant qui a donné le pistolet à Alec Baldwin causant la mort d'une personne sur un tournage la semaine dernière avait déjà été licencié d'un précédent film pour un accident impliquant une arme, annonce de la société de production cette nuit.
On termine avec votre partition, Omblin. Elle était l'icône pop des années 80 avant de crever l'écran en 1992. La princesse de l'Amérique de Ronald Reagan, la chanteuse Whitney Houston.
Une voix d'or, Julien, l'une des plus belles du XXe siècle. Les fées s'étaient penchées sur son berceau. On ne pouvait pas alors imaginer qu'un destin tragique l'attendait.
Whitney Houston grandit à Newark dans le New Jersey et le gospel et la musique soul font partie de son quotidien.
Elle est la cousine de la chanteuse Joan Warwick et sa mère, Cissy Houston, est une chanteuse de renom, une choriste très demandée, employée par Aretha Franklin ou Elvis Presley. Et comme sa mère, sa voix, Whitney Houston, va la forger sur les bancs de l'église. Jeune fille timide, croyante, dotée d'un regard malicieux avec Ce petit pli d'enfance qui lui étire les yeux, sa voix claire est destinée à aller chatouiller les anges. Dans une interview au début de sa carrière, quand on lui demande ce qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle, elle répond que j'étais une bonne personne.
La chanteuse endure une éducation musicale sévère par sa mère, Cissy Houston, qui n'a pas pu ou n'a pas su accomplir un destin de soliste.
C'est Whitney Houston qui le raconte, une discipline de fer, des répétitions tous les jours, un travail pénible pour une technique irréprochable. À 11 ans, elle devient la vedette de la chapelle de son quartier.
Adolescente aux traits gracieux, elle envisage une carrière de mannequin.
Finalement, elle suit les traces de sa mère, elle est choriste à son tour, avant d'être repérée par l'un des plus grands producteurs américains, Clive Davis, fondateur du label Arista. Il veut faire d'elle la nouvelle Madonna. Son ambition, toucher tous les publics, son moyen, dépouiller son répertoire de ses racines gospel, ses racines black music. Et comme Prince et Michael Jackson avant elle, Whitney Houston, sur la corde raide entre pop et soul, réussit le crossover entre les populations afro-américaines et blanches. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together.
Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
Le tout premier numéro 1 de Whitney Houston aux États-Unis le 26 octobre 1985, Saving All My Love For You, un extrait de son tout premier album qui fait d'elle une méga star alors qu'elle n'a que 18 ans. Son entourage, plus toxique que bienveillant, verra en elle une poule aux œufs d'or, la laissant perdre pied. Ce ne sera que le début.
Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous dans un instant, le menu de votre matinale jusqu'à 9h avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée qui se poursuit sur Europe 1 et on vous donne rendez-vous demain.
Dès 5h pétante,